Bonjour, Monsieur Upinski, merci de nous accorder cette interview. Là, on va parler du droit au blasphème de Macron. Quelle est la situation? On peut dire qu'on est à une semaine de l'élection présidentielle, enfin du deuxième tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui est important pour les musulmans à savoir par rapport à la position de Macron sur le droit au blasphème?
Oui, alors nous allons surtout parler du vote musulman puisque c'est la clé des élections. Et l'affaire est d'importance. Nous parlerons tout à l'heure du communiqué de la Grande Mosquée de Paris, donc avec le recteur qui situe bien les choses, en disant que, disons que nous sommes à un moment décisif et nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Donc, ça serait le thème de l'introduction. Alors, quelle est la situation? La situation est la suivante. C'est que nous sommes, le paysage, c'est que ce qui se joue dans les élections habituellement, c'est que ce sont les partis charnières qui décident. C'est-à-dire, ce n'est pas la majorité qui décide. La majorité, elle se fait à partir d'un petit delta. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux candidats. Tout se joue à un petit nombre. Bien entendu, il y a tout un ensemble de minorités que l'on peut identifier, mais la minorité, si je peux dire que tout le monde a identifié, c'est celle du vote musulman. Donc, ce sont les musulmans qui vont décider du résultat de l'élection. Je ne vous apprends pas quoi que ce soit. Tout le monde l'a compris. Toute la stratégie du président s'explique de ce fait. Et pour ceux qui auraient un doute, le communiqué de la Grande Mosquée, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, le confirme. Donc c'est une énorme responsabilité, parce que si Macron est élu, ça sera le président en même temps du vote musulman et du blasphème de l'islam. Donc on est en plein en même temps. C'est-à-dire que de même que personne n'a le droit moralement de voter, j'allais dire, pour Macron, les musulmans, j'allais dire, encore moins que d'autres ou autant que d'autres, parce qu'ils n'ont pas le droit en conscience et en morale d'élire, disons, le blasphémateur de l'islam. Alors, pour commencer, c'est ce que je cesse de dire, il faut s'entendre sur les principes. Et j'allais dire que compte tenu de ce que je viens de dire, si en France, nous ne nous entendons pas sur les principes, eh bien, nous allons vers la guerre, si je peux dire. La guerre à tous les sens du terme, on peut voir, c'est que quand il n'y a pas l'union, eh bien évidemment, la désunion, ça conduit au conflit, voire à la guerre. Bon. Et le principe des principes, c'est la vérité. Et ce dont nous allons parler, c'est de la vérité. Voilà. Alors, pour l'introduction, bon, actuellement, Macron est en position de menteur, nous l'avons vu, d'assassin, nous l'avons vu. Un homme qui ruine le pays, nous l'avons vu. Et maintenant, c'est la question du vote musulman qui se pose. C'est-à-dire qu'en plus, il est un blasphémateur. Alors, pour introduire la question du diffamateur, mais du super diffamateur qui est le blasphémateur, eh bien, il faut remonter à la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre. Et là, il s'est posé une question. Est-ce que c'était une décapitation faite au nom de la charia, au nom de l'islam ou au nom de l'islamisme? Et là, il n'y a pas eu le débat qui méritait de l'être sur la question, et d'autant moins que très rapidement, Macron, le président de la République, a fait une mise en scène absolument blasphématoire pour consacrer Samuel Paty, donc tout de même le blasphémateur au nom de l'islam, c'est ainsi, comme, nous allons le voir, comme l'image même de la République. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre cette mise en scène. Parce que les responsabilités, nous allons le voir, de Samuel Paty sont réelles, mais il y a beaucoup d'imprudence, d'inconscience, d'incompréhension. Tandis qu'on ne peut pas penser qu'Emmanuel Macron n'a pas fait consacrer le blasphème sans y avoir mûrement réfléchi. D'autant plus que le gratin de la République était invité à la Sorbonne qui est la grande faculté théologique. Donc évidemment, l'école nous a appris aux Français, a désappris à penser, à réfléchir. Les mots n'ont plus aucun sens, effectivement. Mais c'est ce que le salut est nécessairement dans le retour à l'intelligence et au cerveau complet. Alors, donc, déjà, Emmanuel Macron s'est comporté d'une manière piteuse, parce que d'une part, il voulait consacrer l'action de Samuel Paty, mais d'autre part, il n'a pas osé montrer. Alors, il y avait effectivement un garde mobile qui tenait le portrait du héros du jour, du saint du jour, si je peux dire, qui était mal Paty, mais il n'y avait pas son fait d'armes. En principe, quand il y a un acte héroïque, on montre le fait d'armes. Le fait d'armes, c'était la fameuse caricature, cette caricature absolument obscène, une étoile zénée, qui n'était pas représentée. Et donc, déjà, on voit le double langage, c'est-à-dire qu'on fait l'apologie d'une chose, mais on n'ose pas la montrer tellement elle est honteuse. Elle était immontrable. Bon, et là, personne n'a soulevé cette question. Personne n'a soulevé cette question. Personne. Donc, cette caricature n'a pas été montrée. Et elle n'a pas été condamnée, ni par les instances religieuses, personne n'a vu. Pourtant, quand même, la Sorbonne, ça se voit à Paris. Et la provocation était inouïe. Donc ça, c'était le 21 octobre. Alors, quelles sont les fautes de Samuel Paty? Parce que, tout à coup, le cerveau a été débranché. Ben, il faut analyser. Ben, les fautes, je les ai énumérées dans le J'accuse de la Toussaint de 2020, 1er novembre. Eh bien, d'abord, il y a une faute de jugement. J'ai enseigné, tout enseignant sait que, en quatrième, on ne montre pas une image obscène. C'est un manque de jugement. Bon, donc déjà, il a fait une faute. Deuxièmement, c'était une faute pénale. Parce qu'on on ne diffame pas, on ne peut pas diffamer un mort. Bon, un mort est protégé par le respect. Donc c'était bien Mahomet, eh bien, un humain, un homme. Et donc il n'avait pas le droit de le faire. Mais personne ne l'a soulevé. Bon, personne n'a soulevé ce délit, si vous voulez, ce délit. Bon. Ensuite, c'était un délit également de diffamation religieuse. Bon. Et ensuite, vous avez qui est garanti par les droits de l'homme. Quand vous regardez les droits de l'homme, ils se réclament des droits naturels sous les auspices de l'être suprême. Donc, vous n'avez, il y a un caractère sacré. Donc, c'est une atteinte au sacré. Et au titre des droits de l'homme, il suffit de lire, eh bien, une atteinte au sacré est également une faute en l'espèce. Nous sommes dans cette faute même contre les droits. Et en dernier, le cinquième, c'est que la Constitution, la Ve République, à l'article 1, consacre le respect aux croyances. Donc, on se demande dans quel pays on est, si vous voulez. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune logique, il n'y a plus aucun respect du droit dans ce prétendu respect de droit. Donc, il est fautif. Samuel Paty est fautif. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il devait subir la décapitation. Mais ce qui est grave, c'est évidemment que ceci a été consacré, si vous voulez, cette faute a été consacrée par le président de la République. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il dit que Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce qui est profondément nous-mêmes. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est un détournement. C'est une contrefaçon qu'Emmanuel Macron a fait. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce dont il s'agit. C'est pas la haine de ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que d'après ce que dit, si on sait, connaît la grammaire, ce que dit Emmanuel Macron dans cette phrase, c'est que nous sommes tous des blasphémateurs. Non. Vous voyez, donc, nous sommes dans une situation qui est tout à fait dramatique parce que, comme le disait Bossuet, disons que Dauphin, celui qui place mal les choses, les mots placent mal les choses. Et actuellement, le désastre que nous vivons est dû au fait que la langue est trahie, la grammaire est trahie. Bon. Alors, ce qu'a dit, donc nous en parlerons dans 2 minutes, mais donc nous voyons ces fautes par lesquelles le président Macron s'est mis hors la loi, hors la République, hors la morale, et j'allais dire hors la France. Ça, c'est la conclusion qu'on tire. C'est-à-dire qu'en ne respectant pas les lois de la République dont il se réclame, même les lois de la laïcité, puisque les lois de laïcité, normalement, c'est la neutralité, ce n'est pas le blasphème, ce n'est pas le blasphème, ce serait la neutralité garantie par la Constitution, la Ve République et l'article 1. Donc nous sommes dans l'arbitraire le plus total, c'est-à-dire dans la dictature la plus totale, c'est-à-dire en l'espèce dans la barbarie la plus totale. Et ça a des conséquences évidemment extrêmes. Et j'ai bien dit que Macron, et il y a eu des conséquences parce qu'il y a eu des attentats, je vous rappelle, après cette intervention à la Sorbonne, eh bien, il a provoqué une incitation à la haine de la France. Parce que, évidemment, c'est comme ça que ça a été compris. Alors, là où nous arrivons au point de bascule par rapport à la suite, c'est que donc Macron, étant hors la loi, hors la République, a prononcé la phrase fatale que je souhaiterais quand même commenter. Bon. Il a dit, Samuel Paty, vendredi, est devenu le visage de la République. Attendez, le visage de la République, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, on sait que Emmanuel Macron, en grand ventriloque, en grand magicien, donne le visage à qui il veut. C'est lui qui décerne quel est votre visage. C'est lui qui décerne ce que vous êtes vous-même. Ça, c'est bon, l'apathie la plus totale, si je veux dire, sans jeu de mots. Si bon. Eh bien, là, il dit, c'est le visage de la République. Mais attendez, le visage de la République, nous croyons que c'était Marianne. Maintenant, ça devient Samuel Paty. Mais il n'a pas fait en sorte que tous les visages de Paty soient dans les mairies. Et donc, nous sommes dans complètement passif avec une mort cérébrale totale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a dit, nous défendons la liberté que vous enseignez. Donc là, il s'adresse à Paty, à la Sorbonne, à Samuel Paty. Nous défendons la liberté que vous enseignez si bien. Prenez compte, si bien, montrant les obscénités. Non, mais où sommes-nous? Personne ne comprend plus le sens des mots. Les associations de parents, personne ne dit, tout le monde est là en faisant des géniflexions. Bon. Donc, nous défendons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est outrager à mort, c'est le diffamer, c'est le blasphémer. C'est ça, la laïcité? Alors là, ça serait la laïcité qui se démasque. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même d'autres, même si d'autres reculent. Or là, Emmanuel Macron, piteusement, n'ose même pas montrer la caricature et il dit qu'il ne renonce pas. Il y a renoncé dès la Sorbonne. Bon, dans un pays digne de ce nom, eh bien, quelqu'un comme Macron aurait dû partir de lui-même, être chassé. Bon, nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que sur la fin de la haine et de la violence par le respect de l'autre. Donc là encore, c'est l'inversion totale. Donc, dans sa déclaration, sa mise en scène, sa liturgie de magie noire de la Sorbonne, nous sommes dans une liturgie inversée de magie noire, bien entendu, il rappelle que les libertés donc, ne tiennent que par la fin de la haine. Mais là, c'est la haine. C'est la haine, c'est-à-dire que le blasphème, c'est la haine du sacré, bien entendu. Bon, voilà, par le respect de l'autre, alors ce n'est pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment le tournant. C'est le droit au blasphème qui est consacré comme le visage de la République. Alors, nous avons pourtant des facultés, nous avons des juges, nous avons des associations. Et il n'y a personne de la vue. Et les musulmans ne l'ont pas vu non plus. C'est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde obéit aux injonctions, quoi qu'il soit dit. Bon. Bon. Et donc, Macron s'est consacré blasphémateur de l'islam et blasphémateur, il faut dire, et blasphémateur de la République en consacrant la République. Voilà cette situation inimaginable, inouïe. Bon. Et aucune voix de musulman ne s'est élevée donc, contre cette consécration du blasphème contre Mahomet. Voilà. Voilà où nous en sommes donc à la veille de ces élections. Alors, dans ce contexte, et là c'est le retournement, rappelons-nous, le blasphème, visage de la République. C'est le point de départ. C'est la situation actuelle. Personne n'a contesté donc, ce théorème qui a été propagé par le propre président de la République. Alors, dans ce contexte, nous arrivons aux élections, bien entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons maintenant, bon, nous avons une déclaration. Alors, donc, nous avons fait évidemment, nous avons diffusé évidemment cette vidéo à partir d'ailleurs du J'accuse de la Toussaint qui a été reprise. Tout ce que je dis évidemment, c'est sur Réarmé Intelligence, c'est sur France Liberté TV, bien entendu. Donc les détails y sont, la caricature y est. Donc chacun doit prendre conscience parce que le mot-clé, c'est que nous devons nous entendre sur les principes, c'est-à-dire sur la vérité, mais nous devons prendre conscience de cette situation. Parce que, comme l'a très bien dit Solzhenitsyn, le mensonge et la violence, et j'ajouterai, l'imposture vont ensemble. Ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que les mensonges, les folies, ça conduit à des drames. Nous le voyons à l'est de l'Europe. Parce qu'au début, ce ne sont que des mensonges, et à la fin, ce sont des meurtres, des assassinats, ce sont des pleurs, des drames. Mais comme le disait Bossuet, il ne faut pas se plaindre des conséquences des principes que l'on a posés ou des fautes que l'on a faites. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans cette déclaration de communiqué du 14 avril du recteur de la Grande Mosquée? On croit rêver, on croit rêver, les mots n'ont plus de sens. C'est Shem Ibn Abi. La France vit un moment, donc nous sommes d'accord sur le principe, la France vit un moment décisif, c'est vrai. Et il en va ainsi de ses citoyen musulman, c'est vrai. Mais déjà, je peux dire qu'il faut tout lire à l'envers, bien entendu.
Il
Leur
date de,
destin,
excusez-moi, monsieur Pinsky, il date de quand ce communiqué?
je viens de le dire, le 14 avril.
14 avril, d'accord, oui.
14 avril. Et donc, c'est fait en rapport avec. Bon. Alors, la France vient à un moment décisif. Alors, il faut inverser tout ce que je dis pour comprendre ce double langage dû en même temps. La France vient à un moment décisif, c'est vrai. Il en va ainsi de ses concitoyens musulmans, c'est vrai. Leur destin, comme celui de toute la communauté nationale, se joue dans les urnes. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est le vote musulman qui va faire l'écart, le petit delta, quand on y est, qui va faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est une grave responsabilité, je tiens à le dire, je leur dirai, parce que c'est le blasphème contre l'islam, assumé ou non par les musulmans, qui va décider des élections. C'est-à-dire que c'est les musulmans qui vont décider, oui ou non, de faire élire Macron sur l'islam, sur le blasphémateur. Donc, je relis, je continue. Des forces malveillantes s'expriment aujourd'hui et appellent au bannissement des musulmans. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de bannissement des musulmans. La question qui se pose, c'est celle de l'islamisme. Et donc, je l'ai dit au moment de la décapitation de Bastille, la question qui se posait, c'est est-ce que ce qui a été fait au nom de l'islam, de l'islamisme, de la charia ou autre chose? C'est le véritable débat. Donc, il n'y a personne n'en appelle au bannissement, enfin, parmi les candidats, des musulmans. Ben, les mots ont un sens. Bon, mais la question qui se pose, c'est la question, évidemment, de l'islamisme, nous allons voir. Donc, il dit, et le communiqué est également signé du Rassemblement des musulmans de France. Donc, c'est quelque chose d'officiel. Nous rentrons dans une forme de séparatisme, de vote communautaire, et nous rentrons dans cette séparation éventuelle. Alors, ce que dit évidemment le recteur, c'est comment répondre? Il dit par la vote dans la continuité de la République. Donc il dit, c'est la continuité, mais non, c'est la continuité d'Emmanuel Macron, bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est que la continuité de la République? C'est ce qui s'est passé à la Sorbonne? La continuité de la République, c'est le droit à blasphème? C'est le droit à blasphémer des caricatures dont se réclame le président Macron? C'est le droit, c'est la continuité du droit à blasphème? Eh bien là, je lance un défi, évidemment, au recteur, de répondre et de rectifier. Le recteur doit rectifier. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas de la continuité, au contraire. C'est la continuité de la République qui nous est présentée comme la pacification, quand le vote par la pacification, si vous voulez, la volonté générale, eh bien là, si c'est le vote, si c'est le blasphème de Mahomet qui décide des élections, ce n'est pas la continuité de la République, ni d'ailleurs de l'islam, je tiens à le préciser. Donc il continue. Halte aux tergiversations, halte à la désinformation. Votons Emmanuel Macron. Mais actuellement, la désinformation, c'est bien celle, c'est pire que la désinformation, c'est le blasphème, c'est bien la Sorbonne. Et j'aimerais bien entendre le recteur en tenir compte. Voilà. Donc là, il y a en conscience, en vérité, et j'allais dire en intérêt, la nécessité de revenir rapidement au bon sens, si je peux dire, à la vérité et finalement au sacré, parce que c'est du sacré qu'il s'agit. Donc c'est bien le sacré qui va décider, excusez-moi du jeu de mots, du massacre éventuellement qui inquiète effectivement le recteur. Alors, le recteur continue, nous n'avons pas le droit, donc nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, ce qui est vrai, en restant des témoins passifs, ce qui est vrai, d'une catastrophe politique imminente, imminente. Regarde, catastrophe. Mais justement, ce qu'il dit est vrai, c'est lui qui va provoquer éventuellement cette catastrophe en reniant évidemment l'islam. Parce que un vote pour Macron, c'est renier, voter, c'est renier l'islam. Alors, donc voilà. Donc, ce qui est dit, c'est que, effectivement, il incite, non, à cette décision, ce vote. Bon. Et donc, nous avons, donc il dit, votons Emmanuel Macron, voilà, c'est un devoir moral pour tous de barrer la route à Macron. Voilà ce qu'il dit. Alors, nous verrons après les conséquences. Alors, où nous en sommes-nous? Après donc ce communiqué qui est un reniement de l'islam, si on le prend en vérité. Nul musulman ne peut voter pour un blasphémateur de l'islam. Alors, on est quand même. Alors, on voit certains vous diront, évidemment, qu'il s'agit des imams ou de l'islam de la République. Mais qu'est-ce que la République? Puisque la République, en principe, ce n'est pas le blasphème, ce n'est pas ce qui est dit. Alors là, nous avons dans ce communiqué, si vous voulez, l'inversion de ce qu'est l'islam, je suis désolé de le dire, l'inversion de ce qu'est la République et des valeurs de la République, l'inversion de ce qu'est le culte, l'inversion des valeurs de paix. Nous avons une identification à l'islamisme, je veux dire, sous sa pire forme. Nous avons une incitation, une identification à un séparatisme et nous avons une incitation à la guerre. Parce que ce communiqué qui est très lisse et qui a l'air très gentil, effectivement, eh bien, finalement, on voit très, très bien que par son inversion, il prétend qu'il y a finalement un drame imminent qui est en train, donc, de... Nous ne devons pas rester les témoins passifs d'une catastrophe politique imminente et il provoque la catastrophe. Parce que si, par malheur, le blasphémateur Macron, qui est l'assassin Macron, qui est le menteur Macron, qui est le pillard Macron, qui est le destructeur des valeurs de la République bien comprise et de la France, était élu sur le vote musulman pris dans ce sens, musulman reniant leurs valeurs, finalement en élisant le blasphémateur, et bien évidemment, et bien on rentre dans une logique de guerre. Et ce communiqué sous-tend effectivement qu'il y a une guerre, et vous savez, c'est classique dans l'inversion, on provoque la guerre en faisant croire qu'il y a une guerre. En fait, Marine Le Pen n'est pas du tout le candidat de la guerre et d'une guerre imminente. Alors, il y a une chose qu'il faudrait dire, bien entendu, c'est que on m'a conseillé, quelqu'un qui savait que j'allais faire cette intervention, m'a dit surtout ne parlons pas du voile. Bon. Parce que quand on reprend le film de la communication de magie noire qui est en train de nous asservir pour nous faire réélire celui qui a fait notre malheur et qui va continuer, eh bien, on voit très très bien qu'il y a, des points clivants qui sont choisis pour simplifier les choses. Bon. Et ce qui a été choisi par la magie noire de Macron, c'est évidemment cet entretien, évidemment préfabriqué, comme toutes ces bains de foule, qui sont des bains de police, qui sont des bains de garde du corps, qui sont des bains de personnes de la RMM. Bon, c'est une escroquerie, ces bains de foule. Ce ne sont pas des bains de foule avec Macron. Eh bien, effectivement, il y a eu ce petit scénario avec une musulmane voilée qui a dit qu'elle était féministe. Vous voyez à quel point on nous prend pour... Bon, c'est inimaginable, il est évident. Bon. Et donc, il a été choisi une chose simple, c'est-à-dire pour ou contre le voile. Alors, évidemment, Macron se présente comme pour le voile, ce qui est illégal, d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a une loi à ces sujets dont nous parlerons, évidemment. Je peux en parler, d'ailleurs, tout de suite. La République se vit à visage découvert. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue, donc dissimulant, sont destinés à dissimuler son visage. Loi 20-10-11-92 du 11 octobre 2010. Voilà. Donc, les affiches existent. Donc, le président Macron ignore la loi. Il est au-dessus de la loi. C'est n'importe quoi. Il est bon. Et donc, c'est l'artisan de, si vous voulez, du blasphème. Il ne respecte pas la loi. Et voilà ce que le recteur voudrait remettre. Quoi. Et donc là, si vous voulez, le déni de la loi, le déni de la vérité, le déni de la santé, ça, c'est la guerre. C'est la guerre potentielle à tous les sens du terme. Bon. Et donc, cette question du voile, il faut l'affronter théologiquement. Bon. Effectivement, je me mets à la place d'un bon musulman qui se dit, certes, Macron, c'est lui qui même perturbe, disons que le cycle des femmes, parce que vous savez que le vaccin est très mauvais pour les femmes. Alors les femmes, il y a les musulmanes, les chrétiennes, il y a tout le monde. Bon. C'est l'homme qui s'attaque à notre santé. Vous savez que les musulmans... J'allais dire, Dieu merci, sont moins victimes de l'anti-vaccination que les autres. Bon, mais le bon musulman va se dire, oui, mais attention, Marine Le Pen n'est pas favorable au voile. Alors, je dirais la première, j'affronte le sujet. Il ne s'agit pas de ne pas affronter les choses en vérité. La première chose, d'abord, c'est que c'est son point de vue. Mais si jamais ou quand elle sera élue président, je mets bien ça en masculin générique de la République, il est évident qu'il y aura... l'expression du Parlement, les débats, les choses. Donc, les choses ne sont pas jouées pour autant, puisque je vous rappelle qu'il y a d'un côté le président de la République et puis il y a de l'autre côté la représentation ou l'espérance nationale. Donc, le bon musulman doit se dire, bon, c'est son avis, mais la question, c'est est-ce qu'en conscience, le musulman doit être favorable au voile? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui oblige à porter le voile? Bon, qu'est-ce qui l'oblige? Eh bien, Qu'est-ce qu'il dit ça? Normalement, s'il est obligé, c'est parce que c'est une obligation religieuse. Bon, en principe. Eh bien, figurez-vous que, et ça, je suis étonné, parce qu'un certain candidat à la République ne l'a pas dit clairement, et puis même dans la tête de bien des musulmans, ils ne savent pas que ce n'est absolument pas une obligation coranique. Absolument pas. C'est une obligation, alors certains ont dit islamiste, mais ça pourrait être une obligation islamiste basée, effectivement, sur une parole révélée, mais ce n'est pas du tout le cas. Le foulard n'est pas cité dans le Coran. Mahomet, alors le foulard est capital, puisque le foulard est la pièce principale du voile sans laquelle une femme ne peut être considérée comme voilée. Bon. Donc, ça n'apparaît, le voile n'apparaît pas dans le Coran, donc le voile n'est pas une prescription coranique, c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé, je l'ai dit, dans le jugement de Jésus par le grand Sanhédrin. Le grand risque des religieux, des pharisiens, des tartuffes, c'est de se réclamer de la religion à des fins inavouables et politiques. Donc le voile est revendiqué par les islamistes, comme d'autres choses, finalement, pour asseoir leur pouvoir, mais ce qui n'a rien à voir avec la religion en général, l'islam en particulier, parce que Dieu, effectivement, n'a pas mis au monde une femme voilée. Et si nous avons un visage pour exprimer nos sentiments, et le visage féminin, je l'ai bien vu lorsque j'étais en Égypte, c'est extrêmement triste, ces femmes voilées. Et je vous rappelle que Nasser se moquait du voile. On ne peut pas dire que Nasser n'est pas grand. Donc là, si vous voulez, de même qu'on nous a obligés à nous masquer, le voile correspond exactement au masque pendant cette épidémie, disons, de coronavirus. Donc il s'agit toujours de soumettre, non pas à la volonté de Dieu, bon, à là en l'espèce, mais à la volonté de ceux qui se prétendent indûment les représentants de Dieu, ce qui est très pratique, hein, parce que c'est comme sauver des vies quoi qu'il en coûte, porter le masque quoi qu'il en coûte. Donc là, nous sommes dans une contrefaçon de religion, sur ce point précis, je ne m'engage pas sur le reste, mais qui, si jamais le malheur annoncé se produisait, eh bien effectivement, nous serions dans une triste. Alors, nous pourrions parler effectivement de la. Si vous voulez, dans l'islam, vous avez deux choses. Vous avez l'ordre spirituel et vous avez l'ordre de la société. Bon, les deux constituent une religion, la religion et l'État, et la charia, c'est le corps législatif. Mais dans le corps législatif, vous avez. Il ne s'impose pas de la même manière, si c'est une loi, comme je vous dis, qui peut être détournée. Et effectivement, la charia, qui est normalement l'émanation de la volonté divine inscrite dans le Coran, bon, or, il n'y a aucun verset dans le Coran qui incite, même qui nomme ce foulard. Donc, c'est pire qu'une interprétation, c'est un moyen, finalement, de marquer son territoire politique. Et quand on sait ce qu'est devenu, disons, la communauté chrétienne en Égypte, je vous rappelle que toute l'Égypte était chrétienne au départ. Les Coptes sont les reliquats, si je peux dire, des Égyptiens dont on voit encore les pyramides. Eh bien, quand on voit effectivement, si, c'est pour ça que je dis que le communiqué du recteur est irresponsable, parce qu'effectivement, quand on voit la difficulté des chrétiens pour vivre avec les musulmans sur le passé, eh bien, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, eh bien, il faudrait mieux, finalement, mettre de la raison. Et j'allais dire, il faut remettre le Coran au centre de la mosquée. Parce que là, ce n'est plus le Coran qui y est, c'est un détournement du Coran. Donc ça, c'est très important. Sur le voile, ne doit pas être un obstacle au vote, puisque la seule solution pour éviter la catastrophe effectivement imminente qui s'annoncerait avec la réélection de Macron, tout doit être fait, évidemment, pour empêcher effectivement la réélection. Et donc, il faut, moi, je prône l'union sacrée, si vous voulez, c'est l'union du sacré, j'allais dire, entre tous ceux qui veulent s'opposer au blasphème dans son principe et donc au grand blasphémateur de Macron. Donc là, sur ce vote, effectivement, toutes les personnes de bonne volonté, les chrétiens et les vrais musulmans, j'allais dire, doivent faire le barrage à Macron. Et je rappelle que s'abstenir, c'est voter une fois, mais voter Marine Le Pen en l'espèce, c'est voter deux fois. Et ce qui est capital actuellement, c'est que nous allons pouvoir compter. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ce sont les votes des musulmans qui vont faire la différence. Et là, nous allons voir, j'allais dire, leur fidélité à leur religion. Et après, au vu de ce que nous allons voir, eh bien, après, nous pourrons tirer des conclusions. Tout le monde pourra des conclusions. Parce qu'effectivement, la situation est grave et elle est encore plus grave si on joue double jeu, comme l'a fait le président Macron, qui fait croire que finalement, on peut être féministe, porter le voile, etc. C'est le en même temps. Donc, il faut sortir du en même temps pour revenir à la vérité. Et ce qui va décider de tout, si vous voulez, c'est d'entendre, c'est effectivement, c'est le sacré. C'est-à-dire que Malraux disait, le 21e siècle sera religieux, ne le sera pas. Et là, c'est sur une question du sacré, du sacrilège, de la fidélité à soi-même, que va se décider, que vont se décider ces élections. C'est tout à fait inattendu, mais c'est une réalité. Alors, pour conclure, alors je dirais, on pourrait parler encore, j'arrête sur la question du voile, parce que qu'on ne nous dise pas que le voile est important pour la pudeur, etc., je ne vais pas en parler, mais ça serait un véritable débat sur le rôle de la femme. Nous pourrions parler dans certains pays qui se présentent comme extrêmement religieux, des danses orientales, on pourrait parler d'autres choses, mais qu'on ne nous dise pas que la femme chrétienne et la Vierge, et je ne vais pas vous parler effectivement de l'argument utilisé par ces islamistes, si vous voulez, sur le paradis, si vous voulez, la présentation du paradis de l'islam, avec le mythe des 72 vierges et compagnie. Donc, revenons sérieusement, c'est-à-dire que cette question du voile n'est pas une obligation, loin de là, pas une obligation religieuse, c'est un détournement. Et donc, pour vivre en bonne entente, effectivement, eh bien, il faut respecter les règles communes et chacun doit faire des concessions à la limite, surtout quand ce sont des concessions qui ne coûtent rien. Alors, que pourrons-nous dire en complément? Ben, c'est que finalement, voter Macron, bon, c'est voter pour disons, un assassin. Nous l'avons prouvé, nous l'avons dit, avec les 40 000 morts qui ont été faits. C'est en conscience, il n'est pas possible de voter pour Macron. Ensuite, c'est une catastrophe imminente. Parce qu'il est évident que l'élection du président Macron, et je vous rappelle, toute honte bue, vous aviez le président Hollande qui a été trahi par Macron, qui l'a rejoint. Bon, vous avez Sarkozy. Donc là, vous avez l'affolement de tous les artisans de la magie noire, de la destruction de la France qui se réunissent. On voit très clairement que c'est comme en 2005, vous avez le système de magie noire qui s'oppose aux tentatives plus ou moins maladroites de la France de revenir à cette magie blanche. Bon, et donc, c'est une catastrophe certaine. Bon, c'est une faute intellectuelle, morale et politique. Je vous l'ai dit, on peut reprendre. C'est une faute complète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer un vote, si vous voulez, un vote partisan. Il faut voir l'intérêt de la France et non pas d'une catégorie. Bon, donc, ça serait, si les musulmans votaient, les autres d'ailleurs, pour Macron, ce serait voter pour le blasphémateur de l'islam. Bon, ayant fait du blasphème, Pater patit, et donc du blasphème de l'islam, le visage de la République. Vous vous rendez compte? Les musulmans qui votent pour Macron votent pour celui qui a dit le blasphème, c'est le visage de le blasphème de l'islam. Vous vous rendez compte? Donc, si on a une conscience, c'est impossible, si vous voulez. C'est comme bon. Et donc, le recteur dit que c'est le juste milieu. C'est pas du juste milieu. Bon, c'est l'extrême, le blasphème. C'est anti-république, anti-islam. Voilà, bon. Et donc, c'est une déclaration de guerre à la paix et c'est aux conséquences incalculables. Donc, je dirais en conclusion, c'est que, en conscience, effectivement, c'est ce vote des musulmans qui va décider de l'avenir de la France, des enfants, de la République, de tout le monde. Oui, c'est vrai, il faut en être conscient, mais quand on en est conscient, on n'a pas un vote partisan parce qu'il ne faudra pas se plaindre des conséquences. Donc, pour revenir à la raison, sans dire pour autant que Marine Le Pen, c'est le Pérou, ce n'est pas la question. Quand vous avez le pire et que vous pouvez faire moins pire, diront certains, ou éviter le pire et peut-être le meilleur, parce que c'est un procès d'intention qui est fait. Parce que les images de Marine Le Pen en mère de famille, ce sont des pires directs. Donc quand on a les possibilités des pires et le pire, son devoir, c'est d'appuyer sur le bouton qui empêche le pire, et après, de faire le meilleur. Et en montrant, si d'ailleurs le recteur de la Grande Mosquée revenait de sa folie, eh bien évidemment, ça serait une marque de bonne volonté. Une marque, et nous ne pouvons vivre en général en France, dans le chaos actuel que nous voyons introduit par l'école dans tous les domaines, que si les hommes de bonne volonté se réunissent, non pas dans une logique de guerre, qui est la logique de se communiquer, et la logique du président Macron, qui est une logique de haine, de guerre, qui, je l'ai dit et je le répète, a fait pour le moins 40 000 morts par sa politique criminelle. Donc il faut remettre, je parle aux musulmans, le Coran au centre de la mosquée, et à ce moment-là, nous éviterons le pire, évidemment, hors mathématiquement du vote de Marine Le Pen, pas de salut, parce que c'est faire barrage aux blasphémateurs de l'islam Macron.
Merci beaucoup, Monsieur Upinski. Je crois qu'on a bien compris. Il y a deux boutons, un bouton autre et un bouton assassin et blasphémateur. Donc les musulmans devront choisir, n'est-ce pas?
Voilà. Et on, nous jugerons effectivement sur les résultats.
Merci.